Bonjour Christian, mon nom est Agathe, j'habite au Canada. En fait, ma question pour toi aujourd'hui, elle est simple, ça, je pense que beaucoup de gens se sentiront concernés, c'est que en ce moment, je n'ai pas d'emploi, je vis en confinement chez moi, j'essaye d'éviter de sortir le plus possible. J'aimerais donner un sens à ma vie plus constructif et j'aimerais savoir quels sont les éléments essentiels qui me permettent d'atteindre mes objectifs. Par exemple, moi, mon objectif, c'est de trouver un emploi pour travailler de chez moi et qui paye bien. Et quels seraient, toi, les conseils que tu donnerais à n'importe qui dans ma situation?
Tu dis que tu vis au Canada. J'aimerais savoir dans quelle ville est-ce que tu es situé, parce que par rapport aux emplois, je dois aussi te donner des outils en fonction du lieu là où tu es.
J'habite à Toronto, donc en Ontario.
N'importe qui dans ta situation, dans la question que tu as posée, tu as dit aussi que j'aimerais donner un sens à ma vie. Donc ma réponse comporte deux volets. Si tu veux donner un sens à ta vie, il va falloir que tu te poses les questions les plus simples. Par exemple, qu'est-ce que moi, Agathe, j'aime faire? Quel est mon talent naturel? Qu'est-ce que j'ai naturellement que j'ai à offrir à la planète, aux humains? Qu'est-ce que j'ai développé comme talent, comme formation? Quelque chose qui peut apporter un plus, donc une valeur ajoutée à quelqu'un d'autre. Ça, ce sont des questions que tu dois te poser. Bien sûr, à partir de là, tu peux facilement aller vers le type de service qui existe pour que tu puisses exercer ton talent en échange de l'argent. Et tu peux bien sûr le faire de chez toi, de la maison, car c'est faux que tous les emplois qui sont du télétravail sont que des emplois de centre d'appel. Est-ce que ça répond un peu à ta question?
Oui, Christian, j'ai l'impression que ça répond quand même en grande partie à ma question. Évidemment, ça va de soi que je m'interroge sur qu'est-ce que je peux offrir en fait qui pourrait donner une valeur ajoutée non seulement à moi mais aussi aux gens à qui je rends service. Et en fait, ça m'amène à une autre question, une sous-question quelque part, c'est que si par exemple je décidais de lancer ma propre entreprise, quelle serait la première chose que je devrais faire selon toi?
Donc Agathe, première chose que tu dois faire, c'est de te renseigner, de prendre des informations. Tu peux aller sur Internet, aller chercher une entreprise ou tu peux contacter un entrepreneur ou tu peux aller voir des vidéos pour aller poser la question à un entrepreneur ici au Canada, même dans la ville où tu es à Toronto, sur l'état du marché en ce moment, sur les capacités entrepreneuriales que ça impose, cette période de pandémie surtout, parce que ça touche beaucoup les entreprises, mais il y en a aussi qui naissent de leurs cendres ou qui ne naissent d'aucun cendre du tout. Donc il est très important que tu ailles te renseigner, te fournir à toi-même des outils, te fournir à toi-même des informations basiques qui serviront surtout de moteur, de gaz, qui te permettront de bien t'alimenter, de bien te documenter pour mieux te lancer dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat. Parce que être entrepreneur inclut accepter certains coûts financiers, certains coûts émotionnels, certains coûts au niveau de la santé aussi, parce que on mange différemment quand on est entrepreneur. On ne mange pas comme si on était employé dans une entreprise avec des heures déjà précises, parce qu'on court après son entreprise, car c'est toi-même qui seras la maman de ton entreprise, qui sera toi-même l'instigatrice, qui sera à la fois celle qui porte le flambeau, qui pousse, qui tire et qui roule l'entreprise. Donc tu as besoin de fournir à la machine, à toi-même qui est la machine, beaucoup d'informations pour que lorsque tu fais ce départ de créer ton entreprise, tu pars en affaires, que ceux qui sont déjà en affaires soient tes mentors. Donc quelque part, je suis en train de te dire, trouve-toi un mentor. D'où en ligne, les mentors, il y en a. Le réseau le plus facile où les mentors sont là exposés, ce n'est pas Google, c'est Twitter. Tu vas sur Twitter, tu vas chercher dans la section entrepreneur, tu trouveras, il y en a beaucoup qui sont là et ils offrent gratuitement leur expertise. Pourquoi? Parce que les gens qui ont réussi ont toujours tendance à tendre la main. Les gens qui ont réussi, qui ont compris le jeu de la vie, qui ont compris le jeu dans l'entrepreneuriat ou dans un domaine connexe qui intéresse une autre personne, ben ces gens n'ont pas de secret. Ils aiment, ils adorent partager leur parcours, mais surtout partager les outils, car ils ont déjà rencontré les défis que toi, tu vas rencontrer. Certes, certains n'ont pas créé nécessairement leurs entreprises au même moment que toi, mais pour ceux qui ont créé les entreprises durant la pandémie l'année dernière ou qui vont le faire cette année, vous allez créer un caucus. Donc, vous allez vous retrouver dans un esprit de communion. Vous allez vous parler, vous comprendre, mais surtout les échanges d'informations qui seront d'une part et d'autre seront des échanges très précieux et des informations très précieuses. Tu comprends, Agathe?
Merci Christian pour cette réponse. Évidemment, j'adhère complètement à ta réponse. Et en fait, maintenant, ma deuxième peur, c'est pas de créer mon propre business, mais c'est plutôt comment est-ce qu'il y aurait une recette pour ne jamais être découragé, pour ne pas se laisser faire par le découragement et être toujours aller toujours de l'avant. Est-ce qu'il y a quelque chose que moi je peux faire pour éviter le découragement et pour être toujours motivé pour aller jusqu'au bout de mes actions?
En fait, ta question va sur le volet motivation. J'ai déjà été entraîneur personnel dans un club de conditionnement physique fitness. La question que je posais souvent à mes clients, c'était parmi les questions de la fiche établie par l'entreprise. C'est une question d'ailleurs d'ordre psychologique, parce qu'on n'entraîne pas simplement le corps de quelqu'un. Alors la question va comme suite. Avant de te lancer dans ce projet d'entraînement, c'est ce que je posais comme question à mes clients, avant de te lancer dans le fitness, dans la perte de poids ou dans le gain de muscle, dis-moi, y a-t-il quelque chose ou une personne ou une situation qui est garantie qui va t'empêcher d'atteindre ce but? C'est la question que je posais à mes clients. Et ils étaient obligés de me répondre parce que c'était ça la clé de la motivation. Après ça, je leur posais la question sur 5 ou sur 10, quelle note tu te donnes de motivation pour atteindre l'objectif que tu veux atteindre? Tu vas travailler avec moi, nous allons perdre du poids, mais nous n'allons pas seulement travailler sur ton poids, nous travaillerons sur ta personne. Nous allons travailler sur ton mental, ton discours intérieur. Alors, quelle est ta note que tu te donnes de départ comme motivation? Et cette note, je la joins à l'élément qui, selon toi, tu penses que c'est l'élément qui va te bloquer de ne pas atteindre ton but. Est-ce que ça répond à ta question?
Oui, largement, ça répond largement à ma question. Dans mon cas, la motivation au début n'est jamais un problème. Je suis toujours très motivée au début. C'est maintenir cette motivation qui est un vrai défi pour moi, parce que la motivation au tout début, elle est tellement pure, elle est tellement forte que c'est formidable de se sentir motivée et de visualiser ce qu'on veut créer. Mais je me demandais, parce que j'ai réalisé plusieurs projets dans ma vie, et en fait, je sais qu'il y a toujours un moment où ma volonté s'effrite un petit peu, je vois des obstacles, je vois des choses qui coupent un peu l'enthousiasme du projet et je me demandais si tu avais une recette pour revenir à la motivation pure du début, qui est une sensation géniale, en général.
Voici ma réponse face à la motivation qui s'effrite en cours de route. Je vais d'abord utiliser une image de style. Tu fais de la cuisine, tu prépares à manger une soupe, un plat, des pâtes ou simplement une recette particulière. Le but principal de préparer à manger, quand tu as les mains dans la casserole, dans le fourneau, dans la cuisine, c'est de manger. Donc, l'objectif principal de faire de la cuisine est d'abord de manger. Ce n'est pas le plaisir de faire à manger. Ce n'est pas parce que tu aimes couper les oignons, couper de l'ail, utiliser des instruments, utiliser des casseroles, utiliser des ustensiles ou des ingrédients. Ce n'est pas là la clé. Le but de faire à manger, c'est de se nourrir. Préparer cette nourriture afin qu'elle arrive à bonne cuisson et qu'elle soit bien et bonne à manger. Le but, c'est que tu le manges pour que ça aille pour ton ventre. Voici l'image. En aucun moment, lorsque tu fais la cuisine, tu te dis, comme le but, c'est de préparer à manger pour mon ventre, pour me nourrir, pour arrêter la famine dans mon ventre, eh ben, je vais m'arrêter en cours de route. En aucun moment, tu vas te démotiver de continuer à préparer ton plat. Bien sûr, il y a des éléments de la vie qui peuvent arriver. Tu réponds au téléphone, une mauvaise nouvelle qui affecte tes émotions. Ah, tu peux arrêter de préparer à manger. Mais encore, tout dépend de ta détermination à manger quand bien même la mauvaise nouvelle arrive. Parce que s'il y a une mauvaise nouvelle qui arrive par le téléphone, et si cette mauvaise nouvelle doit te faire pleurer, il faut que tu aies suffisamment de force pour pleurer suffisamment longtemps. On se comprend. Donc, je vais me nourrir. La mauvaise nouvelle est arrivée de l'extérieur. Je comprends, ça m'affecte, mais je vais continuer à faire mon plat jusqu'à ce que ma nourriture soit prête et je vais manger Même si je n'ai plus vraiment l'appétit, mais le but de mon ventre, à un moment donné, je dois payer la dette de la faim. C'est comme quelqu'un qui n'a pas dormi pendant longtemps. Tu dois finaliser par payer la dette du sommeil. Tu dormiras, donc tu mangeras. Tu comprends? Il faut que tu finisses par manger. Voici l'image que j'ai utilisée. Donc, en cours de route, lorsqu'on est dans une entreprise, quand je dis entreprise, donc on est en train d'entreprendre un projet, la motivation n'est pas une chose garantie. C'est une montagne russe. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça va, ça vient. La motivation disparaît, réapparaît. Comme tu l'as très bien mentionné, il n'arrive pas qu'une personne garde la même motivation du début, tout le long, et après qu'elle ait réalisé son objectif. Non. Pourquoi? Parce que nos émotions fluctuent avec le champ d'intérêt. Nos émotions fluctuent avec les impressions que les autres nous donnent de nous par rapport à eux. Le regard de la famille, les commentaires des amis, les commentaires des meilleurs amis, ceux qui se disent nos meilleurs amis, je sais pas, ils sont meilleurs en quoi, il n'y a pas de trophée à ça, c'est des choses de gaminerie là, de quand on est gamin, hein, quand on devient adulte, les meilleurs amis n'existent plus, il n'y a que des amis de qualité où il n'y en a pas. Et il y a aussi le regard qu'on a nous-mêmes à cause des autres qui nous ont pollués avec leur regard. Ça contamine notre regard sur notre entreprise. Donc, la recette de la nourriture que tu es en train de faire commence à devenir une recette qui n'est pas celle du début. Elle ne goûtera pas ton plat, la recette et les ingrédients du début parce que l'élément qui a affecté ta motivation, c'est le coup de fil, le téléphone que tu as reçu qui a affecté la cuisson, la durée de la cuisson, la qualité de ton implication à la cuisson de ta nourriture, à la préparation de ton plat. Tu comprends? Donc, il faut que toi, tu domines l'extérieur, mais en commençant par dominer l'intérieur qui est « je gère bien mon plat, je gère bien ma cuisson ». Il y aura des informations qui rentreront par mon téléphone. Si je décide de les recevoir ou pas, dans tous les cas, je dois gérer l'émotion, l'enthousiasme que j'ai avec mon entreprise, avec ce que je fais. Donc, le gaz ne peut pas diminuer, mais il peut fluctuer, il peut monter, il peut augmenter aussi longtemps que je reste passionné. Il y a trois questions qu'on peut se poser. Il y en a plusieurs, mais je vais regrouper au nombre de trois questions qu'on peut se poser quand on sent que la motivation diminue pendant qu'on est en train d'entreprendre un projet. La première, c'est pourquoi je fais ce projet? Qu'est-ce qui m'a poussé à aller dans ce projet? Et est-ce que ce projet m'apporte du plaisir? Tu vois, ce sont ces trois questions-là. Pourquoi je le fais? Est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que j'ai une certaine satisfaction de la part de ce projet? Ça m'apporte quoi? Ça contribue à quoi dans ma vie? Et la troisième question, c'est ce projet-là. Il me fait vibrer. Est-ce que ça m'apporte du plaisir? Est-ce que je me sens vivante? Je sens que je participe à quelque chose de grand, quelque chose de plus grand que moi ou quelque chose qui va rejoindre tous les humains. Ça peut rester dans la mémoire des humains comme un témoignage, comme un testament, une trace de mon passage. Si oui, alors la motivation va augmenter. Elle va reprendre son chemin. La motivation, si elle était descendue, si elle avait pris un coup, si elle avait pris une baisse, si elle avait pris le large, la motivation va revenir vite. Car tu te poses des questions, je me pose des questions qui sont de l'ordre du départ. C'était des questions que je m'étais posées au départ. Ce que je veux faire, qui m'anime, qui me valorise, mais qui aussi m'apporte du plaisir. Parce que la vie doit contenir du plaisir, quand bien même il y a des défis, de larmes qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de l'intérieur. Il faut que quelque part il y ait un plaisir. La rose, elle pousse souvent dans la merde ou bien entre des chemins de fer, là où il n'y a que des pierres et des pierres. Mais dans des circonstances qui ne sont mais vraiment pas adéquates pour qu'une rose, une belle rose, pousse. Donc, la motivation, avec les trois questions que je t'ai données, ces trois questions peuvent te servir à rebooster la flamme qu'il y avait en toi au début. Ça te servira de moteur. Alors Agathe, qu'est-ce que t'en penses?
Oui, merci Christian d'avoir répondu aussi clairement à mes questions. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi, ça m'a aidé beaucoup. J'espère que notre échange va aider d'autres personnes, puis qu'on se parlera bientôt si jamais j'ai d'autres doutes dans le futur. Merci beaucoup.